7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines et les voisins, c'est Anastasie Tudiège et non Emmanuel Bastide que vous retrouverez demain pour passer cette presque heure avec vous. Selon une étude sur le rapport des femmes à l'argent diligentée en 2013 par le European Women Professional Network, qui est une fédération de réseaux de femmes cadres européennes, seulement 1% des richesses mondiales appartiendraient aux femmes, alors que plus de la moitié d'entre elles travaillent. L'étude précise encore: il n'existe aucun pays au monde où le salaire des femmes est vraiment égal à celui des hommes. Alors, le constat est sans appel. Mais alors, les voisins, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit dans les capitales africaines? Qu'est-ce qui, dans le rapport des femmes à l'argent, peut expliquer cet écart, que dis-je, ce fossé, entre ce que les femmes produisent et ce qu'elles gagnent? Y aurait-il une approche de l'argent différente selon qu'on est un homme ou une femme? Ce rapport à l'argent est-il problématique sous toutes les latitudes, dans tous les milieux sociaux? Que font les femmes de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent? Et puis, cette problématique femme-argent est-elle une affaire de femmes exclusivement? Pour en parler avec nous, trois invités. Marianne Rubinstein, bonjour.
Bonjour.
Économiste, oui. Maître de conférences à l'université Denis Diderot Paris. Mm-hmm. Et vous êtes co-auteur de L'économie pour toutes aux éditions de la Découverte, ouvrage qui a été prix lycéen Lire l'économie en 2014 du ministère de l'Éducation nationale. Marie-Françoise Hans, bonjour.
Bonjour.
Romancière, essayiste, auteur de 33 histoires de femmes et d'argent aux éditions de L'âge d'homme. Et puis Patrick Avran, bonjour.
Bonjour.
Psychanalyste et auteur d'une petite psychanalyse de l'argent aux presses universitaires de France, les PUF. Il y a nos invités et il y a vous, les voisins, vos témoignages, vos réflexions, vos questions que nous attendons au 33 1 84 22 71 71. Et vos réactions, elles affluent sur la page Facebook de 7 milliards. Extrait, Kondi N'Djamena nous dit « Normal, quand une femme a de l'argent, elle l'utilise pour nourrir sa famille, pour des actions humanitaires, tandis que l'homme collectionne les maisons, les voitures, remplit les comptes en banque, bref, fait tout ce qui est visible et qui lui permettra d'atteindre la gloire personnelle. La femme investit dans l'humanité. » Evelyne Adouala nous dit, elle, que les femmes sont moins en quête de la richesse que les hommes. Les femmes veulent s'enrichir, mais pas au prix de tout sacrifier comme les hommes, parce que malgré ce que les hommes pensent, les femmes ne pensent pas que l'argent peut tout acheter. Oumar à Dakar nous dit que les femmes sont extravagantes en matière de dépenses. Je pense que si l'essentiel des richesses se trouvait dans les mains des femmes, ce serait la catastrophe. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Certaines sont très économes, très modestes et conséquentes. Les femmes, pour me résumer, Anastasie, sont argentivores. Merci beaucoup, Oumar. Nous, les voisines apprécieront. Joseph à Ouagadougou nous dit que les hommes détiennent 99% des richesses, mais ce sont les femmes qui dépensent tout. Les femmes sont des consommatrices. Les hommes sont juste des détenteurs fictifs de comptes en banque. Comment peut-on faire des économies en étant abonné à des magasins, des stores, shopping à volonté? Elles sont les véritables détentrices des 99% des richesses. Et enfin, dernier témoignage, Moussa à Kaolack nous dit « En Afrique, plus particulièrement au Sénégal, mon pays, la tradition avait relégué la femme au second plan par rapport à la richesse. Autrefois même, lors de l'héritage, on donnait aux garçons beaucoup plus qu'aux filles. Les champs ou les espaces de production revenaient aux garçons. On disait que la place des femmes est au foyer. Et cette place au foyer a commencé à disparaître petit à petit, mais persiste en zone rurale où les filles abandonnent très tôt les études pour le mariage. N'ayant pas de diplôme ni de métier, les femmes ne pourront que faire des travaux domestiques ou de petits commerces qui ne rapportent pas gros. » Ou presque est dit à travers les témoignages des voisins, que je remercie d'ailleurs, le complexe, la non-place faite aux femmes dans ce domaine, ou plutôt la place subalterne. Je voudrais commencer avec vous, Marianne Rubinstein, et une citation qu'on trouve dans votre livre, en tout début de votre livre, d'une professeure d'économie à Harvard qui s'appelle Claudia Goldin, et qui dit « Nous enseignons l'économie de la même manière qu'auparavant, quand les femmes ne comptaient pas. Or maintenant, les femmes comptent, alors comment traduire l'économie en « girlish », c'est-à-dire de manière féminine. Oui. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que selon vous, ce qui caractérise le rapport des femmes à l'argent, c'est qu'elles n'existent pas en économie?
En tout cas, ça fait partie du problème. C'est quand il y a un certain nombre d'enquêtes sur ce qu'on appelle l'analphabétisme financier, et il s'agit en fait pour les enquêtés de répondre à des questions très simples. Par exemple, vous placez 100 euros à 2% par an. Au bout de 5 ans, vous avez 102 euros, plus de 102 euros, moins de 102 euros. Bon, je précise, la réponse c'est plus de 102 euros, mais il y a plus de femmes que d'hommes qui ne savent pas répondre à cette question. Mmh. Et le problème, c'est que les femmes n'arrivent pas à s'approprier l'économie et les connaissances économiques et financières de base pour gérer en fait leur argent. Alors c'est pas du tout parce que elles seraient moins capables que les hommes, c'est parce que les stéréotypes ont la vie dure et qu'elles ne se sont pas encore approprier l'économie, la discipline économique, le savoir économique et financier, et il faut absolument qu'elle se l'approprie. Alors évidemment, il y a des femmes économistes extrêmement brillantes, il y a plein de femmes qui sont très à l'aise avec le savoir économique, mais les enquêtes montrent, et ça dans le monde entier, hein, ça a été très bien documenté, les enquêtes montrent dans le monde entier que effectivement les femmes sont moins à l'aise que les hommes, et elles ont tendance à dire je sais pas, je peux pas répondre. Elles se sentent vraiment face à une information qui leur paraît incompréhensible. Alors, donc c'est un des éléments du problème.
Les stéréotypes, c'est une éducation aussi, c'est-à-dire qu'elles ne s'approprient pas. Mais ce qui fait qu'un homme s'approprie le domaine de l'économie, c'est peut-être aussi qu'il y est poussé. Donc, est-ce que ça n'est pas, avant même les stéréotypes, ce vers quoi on dirige les petites filles ?
Tout à fait. C'est pour ça qu'avec Jésabelle Coupé-Souberan, tout notre travail, ma co-auteure, ça a été de changer. On n'a rien concédé sur le fond. On pense que il faut restituer la problématique économique dans sa complexité, mais notre idée, ça a été de changer la forme pour parler d'économie comme on parle à une copine, en fait, de façon sans prendre le pouvoir, c'est-à-dire pour pas que les femmes tout d'un coup se sentent désinvesties du sujet. On s'est dit tiens, on va essayer de leur parler d'économie autrement, parce que effectivement, depuis qu'elles sont petites filles, il faut changer ces cases où on met les garçons et les filles. Alors évidemment, c'est en train de changer, mais ça change assez lentement, et il faut absolument que les femmes s'approprient les connaissances économiques. Je pensais par exemple à la cigale et à la fourmi.
Oui.
Et ce sont deux modèles féminins.
Absolument.
Mais ce sont deux modèles féminins complètement dévalorisants.
Deux archétypes.
Deux archétypes
aussi.
Donc la femme dépensière il y a deux alternatives, la cigale et la fourmi, et finalement une femme ne peut s'identifier ni à la cigale ni à la fourmi, comme si elle ne pouvait pas avoir un rapport finalement tranquille à l'argent. Donc quand on voit cette fable de La Fontaine, je trouve qu'elle donne une indication assez forte finalement sur la difficulté qu'ont les femmes à se penser comme socialement dans leur rapport à l'argent.
Et ça renvoie aussi à une bipolarité, un choix assez restreint, la maman et la putain, la vierge folle, la vierge sage. Dans la Bible, Marie-Françoise, en 102 générations, les femmes se sont affranchies de la tutelle masculine et jouent presque en tout cas désormais à égalité avec eux. Près de 80% des Françaises, par exemple, âgées de 25 à 49 ans, travaillent, et 45% des emplois sont occupés par des femmes. Bref, les femmes gagnent de l'argent, et pourtant plus de 60% d'elles hésitent ou ne vont pas, n'osent pas aller demander une augmentation, par exemple.
Oui, mais alors, moi je vais aller dans le sens, dans votre sens, c'est-à-dire que on vient de tellement loin.
Vous pensez comme Marianne Weinstein que la route est longue.
Et 1804, le code Napoléon, on n'a pas le droit de la femme n'a le droit de disposer de rien. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si, comme les pays, si vous voulez, qui sont en développement, et dont on dit mais c'est bizarre, ils sont pas pareils, etc. Mais il y a quel chemin il a fallu faire.
Donc pour vous, c'est normal qu'elles n'osent pas, que plus de 60% des femmes n'osent pas demander ce qui leur revient.
Je dis pas que c'est normal. Enfin, moi, j'essaye de trouver une explication. C'est-à-dire que je vais vous prendre un autre exemple, parce que dans ces 33 histoires, j'ai recueilli il y a quelque temps, il y a 1, 2 ou 3 ans, mais aussi j'ai retrouvé des femmes que j'avais interviewées il y a 25 ans pour un essai qui s'appelle Les femmes et l'argent, qui était le premier essai au monde sur les femmes et l'argent. Bon, je vais vous prendre un cas qui est une femme qui a une soixantaine d'années maintenant, bourgeoise, mère travaillait pas, grand-mère travaillait pas, etc., qui était dans un schéma. Et du coup, elle était, son mari, qui était vraiment, quelqu'un qui gagnait pas mal de fric, pourtant, son mari lui donnait l'argent tous les matins.
Alors, elle, c'était pas l'enveloppe du lundi, c'était tous les matins.
C'était tous les matins, qu'importe. C'est pareil, si vous voulez.
D'accord. Donc.
Et elle a, la vie lui a fait comprendre que son indépendance et sa liberté passaient par le travail. Elle travaille maintenant. Elle a travaillé, elle travaille. Et cette femme qui m'avait dit il y a 25 ans, l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, l'argent, il faut pas en parler. Donc là, je suis dans votre question. Et ben, maintenant, elle dit, ben, bien entendu, qu'il faut. Et on n'a pas le choix, on n'a pas les moyens. C'est pour ça que les jeunes générations sont beaucoup plus décomplexées que nous.
L'argent, c'est sale, il ne faut pas en parler. Ce sont des termes qui peuvent renvoyer à la sexualité. J'imagine que c'est du pain de béni pour un psychanalyste. Nous allons nous tourner vers Patrick Avran pour lui demander son, pour avoir son point de vue sur la question. Mais tout de suite, c'est la musique de Moriarty avec Candyman.
Come all you ladies, gather round. Don't you know he's back in town? It's the Candyman, it's the Candyman. He likes to take a candy 9-inch long. He says it's fast, a hog eat his corn. It's the Candyman, it's the Candyman. Don't stay close to the Candyman. He leave a big candy in your hand. It's the Candyman, it's the Candyman. Some candy to his sister bad. The very next day she took all he had. It's the candy man, it's the candy man. For a long, long time. It's the Candyman, it's the Candyman. His stick of candy don't melt away, it just gets better every day. It's the Candyman, it's the Candyman. Come on, you ladies, get around. Don't you know he's back in town? It's the Candyman, it's the Candyman. It's the Candyman, it's the Candyman. It's the Candyman.
The Candyman, c'est Moriarty dans 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, les voisins, on parle d'argent, mais pas n'importe comment, pas n'importe quel argent, celui des femmes, le rapport qu'elles ont à l'argent. Et je précise qu'il ne s'agit pas de l'argent du mari, mais il s'agit de l'argent qu'elles gagnent, qu'elles devraient gagner, qu'elles pourraient gagner ou dont elles héritent. Patrick Avran, vous êtes psychanalyste. Le rapport des femmes à l'argent, et on le dit depuis le début de cette émission, complexe, pas seulement lié à elle, mais aussi à la société, à la place qu'on leur donne dans l'économie. Est-ce que c'est ce que vous constatez en cabinet? Que les femmes sont plus gênées ou ont un rapport plus compliqué à l'argent que les hommes?
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Pour dire, l'argent n'a pas de sexe. Le rapport de chacun à l'argent est indépendant du sexe. C'est-à-dire que le rapport des femmes à l'argent, comme celui des hommes à l'argent, est propre à soi-même. Et donc il y a quelque chose qui est à distinguer entre le rapport que chacun peut avoir à l'argent, on peut être dépensier, avare, on peut être radin, économe, ça c'est une chose, et puis aussi les facteurs sociologiques. Et effectivement, ce que nous ont dit à la fois Marianne Rubinstein et Marie-France Hans, c'est que évidemment il y a quelque chose qui est un lourd passé. Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est pas si vieux que ça se passait. C'est-à-dire que les historiens le marquent très nettement, jusque dans le haut Moyen-Âge, de la fin de l'Empire romain jusqu'à peu près au 10-11e siècle, les femmes avaient autant de rapports positifs à l'argent que les hommes. C'est à partir du moment où il y a eu au 11e, enfin le royaume de France s'est constitué, où à ce moment-là, ce sont les hommes qui ont pris le pouvoir. Mais c'est pas si vieux que ça à l'échelle de l'humanité. Hein. Donc il y a quelque chose, on pourrait dire qu'en ce moment, les femmes sont en train de reconquérir, peut-être. Hein. Mais dans un cabinet de psychanalystes, elles ne viennent pas spécifiquement parce qu'elles ont un rapport à l'argent différent de celui des hommes. Je les entends les unes comme les autres de la même façon.
Et ce sont des questions qu'elles abordent ou pas nécessairement? En tout cas, ça ne vous frappe pas. Il n'y a pas une vague, là.
Le propre de l'écoute d'un psychanalyste, c'est qu'à partir du moment où on vient le voir, on est capable de surmonter un certain nombre de tabous.
Oui.
La question de l'argent est évidemment présente. Mais je dirais qu'il n'y a pas de rapport spécifique. C'est pas la même chose, par exemple, que le rapport aux enfants.
Mmh.
Il y a une position différente d'une mère à son enfant et d'un père à son enfant. Ça, c'est évident.
Mais alors, pour l'argent, il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent.
Ça a à voir plutôt, effectivement, avec le contexte sociologique, culturel, du moment, et qui est en pleine évolution.
Voyons ce qu'en pensent les voisins, par exemple. Notre voisin Félix, qui est à Bamako. Bonjour Félix.
Bonjour Anastasie.
Vous êtes le bienvenu.
Oui, Anastasie, comme je l'ai dit au standard, moi je pense que le rapport des femmes à l'argent différencie en fonction des origines des femmes en question.
Ah, vous pouvez vous expliquer ?
Moi je prends mon cas,
oui.
Je prends mon cas personnel. J'étais marié pendant quelques années avec une Espagnole, une Européenne,
oui.
Ma mère de mes deux enfants.
Mmh.
Et pendant toute la durée de notre couple, la gestion du patrimoine du couple était, un couple tous les deux actifs, elle travaillait, moi également, et nous gagnions plutôt bien notre vie. Et nous avions décidé de commun accord de partager les revenus et de nous associer dans la gestion des besoins du couple. Le loyer et toutes les différentes charges,
mm-hmm.
à 50-50.
D'accord.
Et ça se passait très bien, ça n'est jamais plein, moi non plus, et franchement, ça se passait
tout
très
roulait.
Bien. Tout roulait très bien, franchement. Et depuis quelques années, je suis avec ma femme actuelle, qui est africaine, et c'est pas la même mentalité.
Elle est d'où, votre femme ?
Elle est malienne.
D'accord.
Moi, je suis camerounais en passant. Moi, je suis camerounais, mais elle est malienne.
D'accord.
Et c'est pas le même esprit. Elle travaille autant que moi. C'est vrai qu'elle ne gagne pas autant que moi, mais elle, son argent, ses revenus sont directement dirigés vers les besoins de sa famille, à savoir son père, sa mère, ses frères, ses sœurs.
Donc voilà, ça veut dire que c'est vous qui assumez le gros des charges du couple.
Tout à fait, tout à fait. Et voilà, et cette mentalité est générale. On retrouve généralement cette mentalité chez la femme africaine qui se considèrent de fait comme étant des personnes qui devraient être prises en charge par leur mari. Et pour le moindre besoin, elles se retournent vers leur mari et elles n'assument rien. Même quand elles travaillent. Il y en a, je vous dis, qui gagnent mieux leur vie que leur mari, mais qui laissent quand même le mari s'occuper de la totalité des charges.
Qui les laissent prendre en charge les frais du ménage parce que l'argent qu'elles gagnent, elles le redistribuent dans leur propre famille. Ce qui n'est pas sans créer des problèmes dans les couples, évidemment. Merci beaucoup pour votre témoignage, Félix.
Je vous en prie, merci, bonne journée.
Bonne journée à vous à Bamako. Faites comme Félix, les voisins, 331 84 22 71 71. Si vous souhaitez témoigner, poser une question à l'un de nos invités ou apporter une réflexion à ce sujet crucial s'il en est, le rapport des femmes à l'argent, à leur argent. Une réaction sur le témoignage de Félix, cette répartition de l'argent selon les cultures.
Ce qui est intéressant, c'est la deuxième femme qui trouve normal que le mari rapporte plus parce que ça, c'est quelque chose qu'on trouve moins en ce qui nous concerne dans la jeune génération. Moi, ce qui me frappe, c'est au point de vue générationnel.
Pour vous, très clairement, un fossé générationnel.
Il y a un progrès.
Il y a eu un grand bond en avant.
Il y a un progrès générationnel. C'est-à-dire que ce qui me frappe, parce que là, il y a 33 histoires, mais j'en ai rencontré une cinquantaine. Ce qui me frappe, c'est que quand même, les femmes 30, 40 ans qui travaillent, ont avec leur compagnon ou leur époux un rapport plus équilibré à l'argent.
Femme, comment ça va avec l'argent? Moyen, ça avance, un pas en avant, deux pas en arrière. Dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, on en parle après le Flash Info avec nos trois invités, Marianne Rubinstein, Patrick Avran et Marie-Françoise Anse. Et vous, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. À tout à l'heure.
Thank you.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Les femmes et l'argent, comment ça se passe? C'est compliqué, timoré, mais aussi volontaire. Les femmes, il faut dire que, selon nos invités, nous venons de loin. Le sujet de notre rencontre aujourd'hui, les voisins, c'est le rapport des femmes à l'argent. Et nous en parlons avec trois invités, le psychanalyste Patrick Avran, la romancière et essayiste Marie-Françoise Hans et l'économiste Marianne Rubinstein. Patrick Avran, et si le problème entre les femmes et l'argent ne venait pas tant des femmes que de l'argent lui-même? Dans votre livre, vous dites que l'argent n'existe pas et qu'en même temps, vous dites également qu'il est le véhicule imaginaire de tous les pouvoirs. C'est flou, non? Est-ce que les femmes ne sont pas plus, de par leurs conditions, peut-être parce qu'elles elles s'occupent des enfants et de la maison, plus dans le pragmatisme, dans le concret?
Je dis que ce qui n'existe pas, c'est l'argent, que ce qui existe, c'est la monnaie. La monnaie, c'est ce qui permet les échanges sans tenir compte du désir de l'autre. Hein, c'est simple. C'est-à-dire que si je vous donne un billet de banque, c'est en échange de n'importe quoi. J'ai pas à réfléchir à ce que vous allez m'échanger.
Il n'y a pas de rapport de séduction.
Il n'y a pas de rapport de séduction, il n'y a pas de troc. Et il me semble qu'il y a quelque chose, effectivement, où les hommes ont eu tendance à reléguer les femmes pendant un certain temps. En évitant de leur donner de la monnaie, ils les ont dirigées vers le troc. C'est-à-dire que je pense que les femmes étaient plus... tourner vers le troc, c'est-à-dire des échanges de services, des échanges de biens, tandis que les hommes se gardaient le bénéfice de l'usage de la monnaie qui a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que la monnaie, c'est tout puissant, même peut-être trop puissant, on pourrait dire. Mais le propre de la monnaie, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Ça veut dire qu'avec de l'argent, compte tenu évidemment des limitations morales et légales, je peux acheter n'importe quoi. Tandis qu'avec un objet...
Limitation de plus en plus ténue, hein. D'ailleurs...
Oui. Mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la limite aussi propre à chacun. Quand je dis qu'on peut acheter n'importe quoi, ça veut dire que je n'ai pas à chercher ce que je vais pouvoir échanger avec ce que j'ai. Donc le fait de posséder de l'argent, ça donne effectivement une puissance qui a été en partie retirée aux femmes, dans la mesure où si on ne leur donne pas de l'argent, et comme il fallait bien qu'elles aient des échanges, elles s'échangeaient avec du troc.
Et système c'est... D, elles se sont débrouillées autrement.
Absolument.
Alors aujourd'hui,
mais de façon différente suivant les cultures, suivant les lieux, suivant les.
Et c'est un peu ce que nous disait ce voisin Félix avant le flash info, c'est-à-dire que elles comprennent l'importance de l'argent selon les cultures et la femme malienne de Félix utilise cet argent pour sa famille et en même temps elle se débrouille avec pour faire agir son mari dans le foyer.
C'est-à-dire on pourrait dire qu'elle laisse à son mari justement toute la puissance que donne la possession de la monnaie.
Puissance dont il ne voulait pas vraisemblablement.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, si je vous écoute bien, si je vous rejoins, ça veut dire, et c'est ce que je pense, hein, que les femmes seraient mieux armées dans cette crise où on cherche à moins gaspiller, où on cherche plus à dépenser moins, où il y a les combines sur Internet, où on vous voyez, où il y a où on essaye de se débrouiller.
En tout cas, elles sont mieux armées dans Marianne tout ce qui Einstein. Est microcrédit. Mmh. Ça, on le sait très bien.
Partout
dans le monde. Ça, c'est tout à fait documenté. Les bénéficiaires du microcrédit sont à 80% des femmes. Et ceux qui donnent des microcrédits préfèrent prêter aux femmes.
Qui sont souvent des hommes, d'ailleurs.
Voilà. Qui ont un taux de remboursement beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, oui. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que le troc, c'est la double coïncidence des désirs.
Oui. C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que quand je troque un objet avec quelqu'un, il me donne un objet, donc il faut que je désire son objet et qu'il désire l'objet que je donne. Alors que c'est vrai que l'échange contre la monnaie, c'est intéressant de voir la psychanalyse utiliser le langage économique, parce que la liquidité, c'est vraiment un concept économique, mais c'est vrai qu'il renvoie à des... Et donc, l'échange contre de la monnaie ne nécessite pas la double coïncidence des désirs. Alors, c'est vrai que ça met la femme, je suis d'accord avec votre analyse, quand elle n'a pas la monnaie, ça la met dans une situation un peu subalterne quant au désir, en tout cas, de devoir attendre le désir de l'autre.
C'est-à-dire qu'il y a, à ce moment-là, on parle facilement de séduction. Parce que l'important de la monnaie, c'est qu'on n'a pas à s'interroger sur le désir de l'autre. Mmh. Tandis que si j'ai besoin d'échanger ce que j'ai une bouteille d'eau et je voudrais échanger ça contre votre stylo bille, je suis en train de me demander, est-ce que vous avez le désir d'avoir de bouteille d'eau? Et si vous ne l'avez pas, je fais tout faire pour vous dire, mais vous devez avoir soif.
Que j'en
donnez-moi
besoin.
Donc votre stylo bille.
Et finalement, tout a été masqué avec un discours sur le fait que la femme ne savait pas gérer l'argent, donc qu'elle était dépensière. Ce que l'analyse sur le microcrédit dément complètement. Et il y a aussi une enquête, moi, que j'ai trouvée intéressante sur les femmes et l'immobilier.
Oui.
Et en fait, on se rend compte que les femmes qui ont 25% de revenus en moins, en moyenne, donc elles ont un revenu moindre, mais pourtant, en tant que célibataire, quand elles font un achat immobilier, elles arrivent avec plus d'économies que les hommes. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne l'achat immobilier, elles gagnent moins d'argent, elles ont à peu près 25% de revenus en moins, mais quand elles arrivent pour leur achat immobilier, elles ont, c'est Empruntis qui a fait une enquête là-dessus, elles arrivent avec plus d'économies.
Et on a une explication à ça ?
L'explication, c'est sans doute qu'en tout cas, sur cette question de l'achat immobilier, elles sont plus économes en prévision de l'achat immobilier que le sont les hommes.
Donc, meilleur gestionnaire.
Elles risquent moins.
Meilleur gestionnaire que les hommes, mais en même temps, toujours dans ce rapport un peu timoré. Alors, il y en a une, c'est notre voisine Nathalie qui, elle, est dans un rapport plutôt de pouvoir avec l'argent. C'est son conjoint qui gagne moins qu'elle. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Depuis Villejuif, vous êtes la bienvenue.
Oui, alors je voulais juste apporter mon témoignage,
oui.
Parce que moi j'avais l'impression par rapport à tout ce que j'entendais en fait d'être à l'inverse.
D'être un ovni.
À l'inverse, mais je suis certainement pas la seule. C'est-à-dire qu'effectivement je gagne plus que mon conjoint, mais je gagne un salaire, je suis enseignante donc voilà. Mmh. Petit salaire, on va dire. Et donc, je me trouve dans la situation où vous disiez les hommes qui donnaient le lundi l'argent. Bon,
c'est vous qui laissez l'enveloppe sur la table de la cuisine.
Voilà, donc moi, j'en suis à donner de l'argent à mon conjoint, mais sans qu'il s'en aperçoive. Parce que on ne donne pas d'argent à un homme.
Et ça, les femmes africaines le savent très très bien.
Oui. Donc ça crée vraiment au niveau du couple une relation qui est quand même assez spécifique.
Mais du coup, vous prenez beaucoup de choses en charge.
Je vois du coup le pouvoir que peut donner l'argent. Les hommes qui jusqu'ici ont utilisé ce pouvoir sur la femme. Je m'en rends compte moi étant dans cette situation.
Donc le fait que vous donniez de l'argent à votre mari, enfin à votre compagnon sans qu'il s'en aperçoive, ça veut dire que vous prenez beaucoup de choses en charge, pas seulement économiquement mais aussi psychologiquement.
Voilà.
Vous le ménagez énormément. Patrick Avran n'a pas l'air d'accord.
Quand vous dites sans qu'ils s'en aperçoivent, je pense qu'il y a une différence entre ne pas vouloir le montrer, ne pas vouloir faire en sorte que ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose du tabou qui est là,
oui.
Qui me semble être différent du fait que effectivement l'argent a un certain pouvoir et que le donner à quelqu'un, ça peut imaginairement faire que l'on... On a le pouvoir sur la personne en question, mais oui. C'est surtout à partir du moment où on n'en parle pas. Parce que...
Qu'est-ce que vous voulez dire? Le fait de ne pas en parler est plus grave que le fait de dire « voilà, je te donne cet argent ».
Mais elle ne lui donne pas cet argent. Je réponds à votre place, madame.
Oui, oui.
Je pense que vous ne lui donnez pas cet argent. Vous faites en sorte...
Je ne donne pas des billets sur la table.
Oui,
mais je vais acheter des choses,
oui.
Je vais participer davantage... pour les choses. Mais on se dit pas aujourd'hui, voilà, j'ai participé à ça, puis toi à ça. On ne le verbalise pas. Ça se fait parce que, voilà, j'ai
parce
un meilleur salaire.
Parce que ça pourrait être plus humiliant.
C'est-à-dire que
lui.
Vous partagez les frais en fonction des revenus de chacun. Le problème,
oui,
c'est que...
c'est plus complexe que ça.
C'est
un homme et que, du coup, il ne se sent pas à l'aise dans cette situation parce que ce n'est pas une situation reconnue pour un homme.
Patrick Avran. Ça vous laisse... vous n'y croyez pas?
Si, si, je crois tout à fait. Je pense que cet homme a du chemin à faire. Je veux dire, par là, il n'y a aucune raison psychique. Hein. Je dirais, l'inconscient, en ce qui concerne l'argent, est fait de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Il faut qu'un homme puisse accepter de gagner moins d'argent que sa compagne pendant éventuellement un certain temps ou même tout le temps,
sans
que ça
pose
un problème de confiance en soi. Mmh. Et c'est simplement ça.
Oui, pense. Mais
que beaucoup d'hommes acceptent de gagner moins d'argent que leur conjoint.
Mais moi, j'ai deux ou trois exemples sur les 33.
Alors, vous pouvez m'en donner un rapidement.
Bien sûr, d'une femme chef d'entreprise qui marche très bien. Et son mari artiste ne gagne rien. Et ça se passe
très bien.
Ça se passe très, très bien. C'est-à-dire que, bon, elle... Mais, alors, il y a peut-être une explication. Peut-être une explication, c'est que elle est d'origine suisse, plutôt protestante, donc il n'y a pas cette espèce de gêne chez elle. Parce qu'il y a ça aussi.
Du coup, on peut peut-être vous poser la question, Nathalie, est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce que vous ne prenez pas trop les devants vis-à-vis de votre compagnon? Est-ce que vous ne préjugez pas de sa faiblesse, finalement, trop?
C'est possible, c'est possible.
Et ce qui peut être fragilisant, non, Patrick Avran?
Oui, je pense que ce qui est le plus fragilisant, c'est effectivement que les choses se passent sans être dites. Il ne s'agit pas de le dire absolument tout le temps, mais il s'agit de surmonter les tabous. C'est-à-dire de pouvoir imaginer qu'un homme qui gagne moins d'argent que sa compagne, bah, il n'en est pas plus malheureux pour ça.
Et je ressens d'ailleurs que si Nathalie nous appelle, c'est pas seulement pour apporter un témoignage, c'est peut-être aussi que ça vous pèse finalement et que vous demandez comment faire, quoi en faire.
On n'a pas trouvé, nous en tout cas à ce jour, on n'a pas trouvé de solution idéale encore, de part comme monsieur disait, est-ce qu'il y a un travail à faire chacun de notre côté par rapport à notre relation à l'argent? Ça peut-être, mais je sais que moi ça me pèse et que je suis de temps en temps dans un sens, c'est-à-dire à dire, eh bien, il se débrouille, et puis dans un autre, en étant généreuse et en disant, bah non, on vit ensemble, c'est normal, on partage chacun comme on peut.
Mais c'est intéressant la reformulation de Patrick Avran, c'est-à-dire de passer de « je lui donne de l'argent » à « chacun contribue dans le couple en fonction de ses moyens ».
Et c'est vrai on ne l'infantilise plus.
Voilà, chacun contribue dans le couple en fonction de ses moyens, c'est un critère d'équité, et non pas d'égalité, mais d'équité. Finalement, et qui enlève cette idée de donner à l'autre. Et je trouve que la reformulation, elle dénouait la tension, justement, que pouvait créer le fait de donner par rapport aux représentations qui nous viennent des siècles passés, la place de la femme et la place de l'homme, dont on essaie de toute façon de se départir. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant.
J'avais l'impression, apparemment, je me disais, si je vivais avec une femme, ça ne se poserait pas du tout de la même façon. Chacun, effectivement, amènerait ce qu'il peut amener au foyer, me semble-t-il. Alors que relation homme-femme.
On l'a dit en début d'émission, c'est peut-être là, en tout cas c'est ce que moi je ressens, c'est peut-être une question de culture aussi. Mais en tout cas, la discussion mérite d'être menée. Je vous laisse conclure, Patrick Avran.
De dire ça comme ça, ça veut dire qu'il y a une image de l'homme par rapport à l'argent culturellement qui est profondément ancré
chez
cette personne.
Il y a un inconscient collectif là,
absolument,
que chacun personnifie. Oui.
Mais l'inconscient collectif n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est la collectivité, le social. L'inconscient propre à chacun, justement, il fait pas tellement de différence.
Voilà, d'accord. Nathalie. J'espère que ce partage et les réactions de nos invités vous auront permis d'ouvrir le dialogue. Qui sait, peut-être que votre compagnon écoute, sans vous le dire, puisque tout ne se dit pas. Donc peut-être qu'il écoute en même temps. Allez savoir. Je vous souhaite une belle journée. Belle journée à Villejuif. Faites comme Nathalie, appelez le 33 1 84 22 71 71. Vous êtes nombreux à le faire. Avant de recevoir Fatima, une voisine béninoise de Parakou, au nord du Bénin, je voudrais revenir sur un mot que vous avez employé qui me paraît très important pour parler du rapport des femmes et de l'argent, Patrick Avran, c'est le mot tabou. Il me semble qu'aujourd'hui, ce rapport, cette libération par rapport à l'argent reste l'ultime tabou, bien au-delà du sexe, par exemple, de la libération sexuelle, dont je ne sais pas si elle est vraiment une réalité. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'argent est encore plus tabou que le sexe aujourd'hui dans nos sociétés. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Marie-Françoise, on se dit oui, Patrick Avran.
Ce qu'on vient d'entendre.
Marianne Rubinstein.
Oui, alors moi, au-delà du tabou, j'ajouterais le fait qu'ensuite, il faut que les femmes s'approprient une connaissance dans la gestion de l'argent, qu'elles qu'elles doivent s'approprier, qu'elles ont tout à fait les moyens de s'approprier. Simplement, le tabou a fait écran à l'appropriation de cette connaissance.
Mais maintenant que le tabou est nommé, qu'il est délimité, ouais. C'est à chacune d'aller à l'assaut, enfin de le dépasser. Je compte sur vous pour nous donner quelques trucs.
D'ailleurs, elles sont très douées. Regardez dans les petites entreprises, les femmes chefs de PME sont très très douées
Oui.
Bien sûr.
Mais pour une raison qui me semble assez évidente.
Dites-moi.
C'est-à-dire qu'elles n'ont pas ce rapport érotique à l'argent qui a été présent pour les hommes depuis très longtemps, puisque l'argent c'était la puissance.
Bien entendu.
Puisque la monnaie c'était la puissance. Plus on en avait, plus on était puissant. Les femmes étaient mises hors de ce circuit-là. Donc elles ont un rapport sans doute, mais ça je dis toujours culturellement, elles ont un rapport plus simple, entre guillemets, à l'argent, c'est tout simplement quelque chose qui sert aux échanges.
Je vous propose d'accueillir une voisine qui nous appelle donc depuis Parakou, au Bénin. C'est au nord du Bénin, très très belle région. Bonjour Fatima.
Oui, bonjour Anastasie.
Alors vous, Fatima, vous souhaitez réagir aux propos de Félix tout à l'heure qui disait que les Européennes partagent l'argent, les Africaines le gardent pour elles et pour leur famille. Ça vous a pas plu?
Voilà. Bonjour Anastasie.
Bonjour.
C'était par rapport à ce que disait Félix tout à l'heure. Effectivement, les mentalités changent avec la jeune génération parce que nous avions constaté en fait que quand vous vous mettez ensemble et que vous ébauchez des plans d'avenir avec votre époux,
oui,
et vous donnez corps et âme pour mettre votre ressource au service du foyer. Et après, qu'est-ce qu'on constate en Afrique? C'est que les ressources du mari... Évidemment, la femme, elle apporte un peu plus, parce que eux, par rapport aux dépenses globales, mais il y a des petites dépenses qui se font à la maison, qui sont faites, en fait, par les femmes.
Et sans qu'elles soient comptabilisées par les hommes, sans qu'ils se rendent compte que ces dépenses existent.
Voilà. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'après, les ressources du mari sont utilisées pour entretenir les nombreux bureaux des copines. Donc, d'où le refus de la jeune génération de mettre leurs ressources entièrement à la disposition du foyer.
Mais ce que Félix disait tout à l'heure, c'est que ça n'est pas une partie de ses ressources que son épouse met de côté. Ce sont toutes ses ressources qu'elle met à la disposition de sa famille. Vous ne le croyez pas?
Non, vous savez, les hommes africains, ils ne disent pas...
Oh mon Dieu, mes pauvres voisins africains. Oh mon Dieu.
Non, mais c'est vrai. C'est sûr que la femme, elle apporte quelque chose. C'est sûr.
D'accord.
C'est sûr qu'elle apporte, elle a sa contribution.
Mais est-ce que vous pouvez entendre que Félix trouve qu'elle n'apporte pas assez? Ce sont des débats dans les couples africains qui existent où effectivement l'apport au pot commun n'est pas forcément égalitaire.
Parce que eux, ils veulent que la femme apporte plus.
Non. Ce qu'il disait, c'est que sa compagne espagnole apportait 50% et il aurait voulu que sa compagne malienne apporte 50%, ce qui n'était pas le cas. Il était frustré sur le partage.
Parce que la malienne, elle a peur du lendemain aussi. Parce que les hommes, du jour au lendemain, vous êtes virés et tout ça. Vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Si vous voulez mettre tout dans le ménage, on ne sait pas ce qui va se passer.
Bon, alors on a compris que Félix doit réviser sa copie. Merci pour votre témoignage, Fatima. Et belle journée à vous à Parakou, Cap sur Bamako. Maintenant, on reste en Afrique de l'Ouest. Avec Lassine, bonjour.
Bonjour.
Allô, Lassine?
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Lassine.
En fait, moi, j'ai écouté votre émission et j'ai écouté l'intervention d'un Camerounais qui est une épouse malienne.
Du monsieur Félix, donc.
Oui, il disait qu'il avait une première épouse espagnole avec laquelle ça se passait bien parce qu'il se partageait les charges.
Oui.
Et qu'avec la malienne, les revenus de la malienne sont principalement dirigés vers sa famille.
Absolument. Et alors vous souhaitez réagir à ça?
Moi, j'ai dit oui par rapport à ça. J'ai dit, chez nous, ici, c'est comme ça. Les revenus les dépenses d'un foyer sont principalement dévolues à l'homme.
Mmh. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que culturellement, au Mali, qui dit couple dit frais du ménage pris en charge par le monsieur.
À 100%.
Donc c'est un problème culturel, c'est un choc culturel, c'est un couple mixte en fait que forme celui de Félix et sa compagne, et il n'est pas au courant des mœurs maliennes.
Oui, tout à fait. Sinon, chez nous, il n'est pas interdit à une femme de participer aux dépenses de la famille.
Bien sûr.
Mais principalement, c'est l'homme qui est en charge de ces dépenses-là.
D'accord.
C'est l'homme qui est en charge de ses dépenses principalement, et la femme peut intervenir. Si elle veut et quand elle veut.
Oui, mais alors ce que vous décrivez, vous décrivez, Lassine, c'est ce qui est ce qui a cours traditionnellement. Nous sommes en 2015, 21e siècle. On peut imaginer que les femmes maliennes, comme toutes les autres, bougent, évoluent et même là-dessus, non ?
Oui, mais la nouvelle génération, il n'y a pas de souci. La nouvelle génération, les jeunes qui s'installent présentement avec leurs épouses, ils essayent de faire comme les Occidentaux, en fait, que la femme.
Comme les Occidentaux ou d'autres Africains. Tous les Africains ne fonctionnent pas de la même manière. Mais quel conseil donneriez-vous à Félix ? Il doit certainement nous entendre.
Oui, mais moi, j'ai dit, je ne suis pas un traditionnaliste pur et dur, mais je pense que, en tout cas, moi, en tant qu'Africain, avec une culture malienne, je pense que les dépenses de la famille, jusqu'à présent, incombent à l'homme, et c'est l'homme qui doit faire face aux dépenses de la famille.
Donc, vous dites à Félix de serrer les dents et de prendre son mal en patience, c'est comme ça, d'assumer d'avoir épousé une femme malienne.
Oui, tout à fait. Si la femme, mais la femme, elle n'est pas, elle réagit souvent quand elle voit des dépenses, elle le fait sans problème. Elle n'a pas besoin. Mais en fait, nous ne faisons pas une obligation à une femme de faire, par exemple, de dire les charges de l'électricité doivent incomber à la femme, les charges de.
On a bien compris. On a bien compris que les dépenses du foyer incombent à l'homme dans la culture malienne. Merci beaucoup, Lassine, pour ce témoignage.
Je vous en prie. Je vous en prie.
Belle journée à vous à Bamako,
à vous aussi,
qui est aussi le titre d'un très beau film du primé Abderrahman Sissako, 7 milliards de voisins, les femmes et l'argent. Vous l'entendez, c'est un sujet qui ne rassemble pas forcément. Alors, en tout début d'émission, Marianne Rubinstein, j'ai commencé avec un chiffre, 1% des femmes détiennent les richesses mondiales, un chiffre que vous contestez.
Oui, ce chiffre m'étonne beaucoup. Oui. Si on prend... Alors pour une raison simple, c'est qu'en général, les richesses, elles sont déclarées par ménage. Alors, je ne sais pas comment on a pu distinguer.
Comment le décompte a été fait.
Alors, en France, il y a une enquête qui permet de distinguer ce qui appartient aux hommes et ce qui appartient aux femmes. Et en fait, la différence est de 15%. C'est-à-dire que les hommes ont 15% de richesses de plus que les femmes en moyenne sur la France. Alors, sur l'immobilier, c'est pratiquement à part égale. Et en fait, la richesse supplémentaire qu'ont les hommes, c'est principalement des titres financiers. Et là, de ce point de vue-là, les hommes compensent plus que ce que leur revenu leur permettrait d'avoir. Donc, alors, c'est aussi lié au fait que les femmes ont 4 heures par jour de tâches domestiques. Les hommes n'en ont que 2. Je pensais à ce qu'ils disaient, oui, depuis 86. Et alors, je crois que les hommes font peut-être 3 minutes de plus ou 5 minutes de plus. Et les femmes ont 1 heure en moins, mais qui est liée, en fait, à plus d'appareils ménagers, etc. Donc, en fait, les hommes n'ont pas pris le relais de ce point de vue-là. Et donc, il y a une espèce de partage des tâches, ce qui explique aussi que parfois, certains hommes contribuent plus d'un point de vue monétaire aux finances du ménage, alors que la femme contribue davantage, mais dans le cadre de d'échanges non monétaires ou de travail non monétarisé.
Qui du coup n'est pas comptabilisé. Et ça, c'est problématique. Voilà. Quel truc pouvez-vous nous donner, Marianne Rubinstein, pour les femmes qui nous écoutent, et peut-être pour les pères de filles ou les cousins, qui pourraient aider les femmes à avoir un rapport plus proactif à l'argent ?
Je crois qu'il faut déconstruire le tabou, ce qu'on s'est attaché à faire aujourd'hui. Une fois qu'on l'a déconstruit, donc avoir un rapport plus tranquille à l'argent, qui n'est ni cigale ni fourmi, parce qu'encore une fois, les femmes ne sont pas plus ni l'une ni l'autre, ni cigale ni fourmi que les hommes. Il y a tous les comportements. Et ensuite, il faut encore une fois s'approprier la connaissance économique, parce que finalement, les sources de revenus, c'est quoi ? Ça va être le revenu du travail. Donc, il faut déjà comprendre comment fonctionne le marché du travail pour être capable à un moment donné de savoir quelle est sa valeur marchande et d'être capable de demander une augmentation de salaire quand celle-ci est légitime. Sur le marché de l'immobilier, les gens s'enrichissent beaucoup ou s'appauvrissent avec l'immobilier. Il faut savoir comment ça marche pour acheter au bon moment. Ce que les enquêtes montrent, c'est que souvent les femmes ne prennent pas en considération la dimension financière de l'achat immobilier. Elles voient la maison, la famille, mais elles ne prennent pas en compte cette dimension financière de placement. c'est important qu'elle le considère aussi. Donc, la connaissance, la connaissance, la connaissance. Il faut... Alors, voilà, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire donc avec ma collègue
et que
Jésabelle,
vous réussissez formidablement.
Couper Soubéran dans l'économie pour toutes. Donc, sans rien concéder sur le fond,
mais
ça c'est très
d'humour.
Important, mais avec de l'humour et avec une parole plus libre, avec ce qu'on a appelé une phrase féminine en hommage à Virginia Woolf, c'est-à-dire une phrase qui ne transporte pas le pouvoir avec elle, qui essaie de se départir du pouvoir de celui qui sait, pour parler de façon plus horizontale et pour que les femmes, en fait, à présent, désormais, se sentent tout à fait investies du savoir économique.
Et voilà. Le pari est réussi. Le livre, je le recommande, Patrick Avran. La question, la problématique de ce rapport des femmes à l'argent doit-elle être portée avant tout, d'abord uniquement par les femmes? C'est une affaire de femmes? Le rapport des femmes à l'argent.
C'est une affaire de femmes et d'hommes. Mais la question même de est-ce qu'il y a un rapport spécifique des femmes et l'argent, il faudra qu'un jour on ne se la pose plus.
C'est un jour prochain ou pas ?
Je n'en sais rien, je ne lis pas dans le marc de café, mais en tout cas, c'est un jour qui est peut-être en train de s'approcher. Mais il y a quelque chose qui, quand même, est au-delà de tous les tabous que chacun peut avoir avec l'argent, qui doit être distingué entre le fait d'être un homme et une femme. Et on a le droit d'être une femme avare comme d'être un homme avare. On a le droit d'être une femme dépensière comme d'être un homme dépensier. Et ça, c'est indépendant du sexe.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Avran. Vous êtes auteur de Petite psychanalyse de l'argent aux éditions PUF. Merci à vous, Marie-Françoise Hans, auteur de 33 histoires des femmes et de l'argent. Et merci à vous, Marianne Rubinstein, auteur de L'économie pour toutes. Demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide qui recevra la fille de Philippe Manœuvre. Bonne journée, les voisins.